Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 16 août 2008 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Un vide dans vos oreilles avec, pour commencer, maintenant, le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, comics, super-héros, TV et JO. Suivi de ça, c'est du sport, résultats sportifs en direct de Chine. Et ensuite, ce sera du reggae à 15h et à 17h. Booster FM prend la suite sur la bande FM sur nos 89,1 MHz jusqu'à 7h du matin. Vous écoutez FMR sur 89.1. Nous sommes en direct et on continue sur www.radio-fmr.net. Quoique je sais pas ce qui se passe sur le stream, mais c'est vrai qu'on a que là on a hier ça a pas marché. Enfin bon, ceci dit, bonjour et bienvenue, merci à vous de nous être fidèles. C'est vrai, la semaine dernière nous étions pas là et là je suis un peu tout seul, mais pas de panique, du sport va arriver pendant l'émission, JB aussi va arriver et Thomas sera en insert téléphonique. C'est juste que voilà, c'est l'été, donc on met des trucs qui tapent mais pas trop fort. Allez, un truc complètement explosif, complètement sous acide, c'est rude de bleu bubbles. Youhou ! We'll be right back. Allez, avouez, vous faites ça vous aussi quand vous avez une baignoire. Ou dans la piscine municipale à défaut du Grand Océan ou de la Méditerranée. Ouais, voilà, un fondu un petit peu sec, excusez-nous. Ça ne part pas exactement comme prévu, cela arrive, c'est un peu le foutoir comme d'habitude dans le studio. Mais bon, donc aujourd'hui, on va parler peut-être d'une... On va pas parler peut-être, on va sûrement en parler, c'est obligé. On est obligé d'en discuter, je crois que pratiquement toute l'équipe l'a vu. Et c'est une véritable tuerie, on en parlera tout à l'heure. Je vous mets peut-être sur un indice.
To the Batmobile, let's go.
Voilà, ça c'est tout à l'heure. C'est peut-être le film qui mérite plus considération actuellement au niveau artistique, même si on en parle surtout en gros sous et en termes de franchise. On verra ça pourquoi tout à l'heure. Enfin, vous verrez, vous l'entendrez, on fait de la radio. Bah oui, c'est obligé. Et puis sinon, accessoirement, on a des sorties bandes dessinées. On a principalement du comics, un peu de romanga et une bande dessinée qui se fait un plaisir de jouer le polar. On aura aussi du western à la télévision, de la science-fiction et quelques films. Et du sport, on va aussi parler un peu de manga de sport. Après tout, pourquoi pas? Ça, c'est peut-être parce que les Jeux Olympiques, finalement, ça manque de quelque chose, on ne sait quoi. On verra ça tout à l'heure, ça sera avec lui. Mais surtout, il y aura une rétrospective autour d'Isaac Hayes. Je vous recommande de l'écouter tout à l'heure à 14h du sport. He knows in sports, mais il s'y connaît aussi énormément en musique. Et là, il va vous en mettre plein les oreilles pour l'interprète, pour le compositeur, surtout principalement, qui est malheureusement disparu lundi dernier à la suite d'une crise cardiaque. On en reparlera ça après... on est en plein été, c'est le 15 août. Non, là, on est le 16. On va peut-être prendre un petit peu son temps, non? Un petit cocktail et ça repart. Juste après ça, on va entamer les sorties bande dessinée. Du sport se met en place et je sais que la première BD lui plaît. Alors là, il est en train de se prendre la tête, se dire merde, ça me fait chier tout à l'heure avec tout ce qu'on va les céder, avec tout ce que je vais passer comme Isaac Hayes. La scientologie va toucher plein de sous grâce à la SACEM. C'est chier, merde. Oui. Alors vous le voyez pas, vous avez pas la couleur, je suis désolé pour vous, mais quand même, hey, la pile de CD. Oui, vous savez, le CD là, c'est ces trucs qui tiennent la musique physiquement là, pas les MP3. Ah, quand même, c'est classique. Allez, on entame les sorties. L'Axe, les tribulations du Choukas. Enfin, nous on prononce avec le S final. J'ai remarqué que l'Axe le disait pas, le S final. La brousse ou la vie. Le deuxième tome, donc, de cette spin-off de la série Les Choucas vient de sortir dans la collection Repérage chez Dupuis. Alors, le Chouka, il n'y en a rien à dire sur ce drôle de personnage. C'est un improvisé détective privé, sans licence, expérience, diplôme ou arme. À 50 ans, sa vie n'avait qu'un seul but, remonter les 16 horloges mécaniques de l'usine où il travaille. Et pour marquer l'an 2000, son directeur décida de changer toutes ses aiguilles par du numérique. Se retrouvant au chômage, ce fan de la série noire décide de devenir un émule de Marlowe. Et c'est en mettant le complet noir de l'enterrement de sa mère et une chemise jaune qu'il décide de s'appeler le Chouka, le nom d'un drôle d'oiseau. Peut-on se reconvertir d'un coup en ne connaissant le métier que par les romans? Bonne question. Il fera la connaissance d'un taxi nommé Gabin et d'un alibi Aristide, ex-prof de lettres spécialisé gréco-romaine, la lutte, pas la culture, devenu livreur de pizza. Le Chouka apprendra vite les vraies ficelles du métier, avoir le cul bordé de nouilles. Hommage hilarant à la collection Série Noire de Gallimard et à l'ensemble du genre, la série est bondée de références au polar, avec une immense maîtrise graphique. Avec son Chouka, l'Axe a démontré qu'il est un auteur complet, capable du tragique, c'est le dessinateur de Chien de Fusil ou d'Azraïen, comme du très drôle. Dupuis croyait énormément sur cette série, en livrant début 2001 les 3 premiers tomes sur moins de 2 mois. La série originelle fera 6 tomes. Puis on nous a promis les tribulations du Chouka. Voici enfin le deuxième tome, après 3 ans d'attente. Et les parents du petit Benoît Bottin sont morts d'inquiétude. L'ado est parti sans laisser d'adresse. Un comble pour un Bottin. Chouka est donc leur espoir de retrouver au plus vite le jeune homme. Mais ce dernier a décidé de fuir au pays de ses ancêtres. Car même s'il est français, le jeune Benoît a décidé de fuir la patrie de ses parents adoptifs pour retourner au Mali. Celle où il est né. Afin de raconter aux candidats au départ combien les Noirs sont mal vus en France, surtout de certains flics. Gros problème. Raconter, ça casse le rêve, et donc le revenu des réseaux de passeurs. Dans son excursion au Mali, Chouka, en ramenant sa fraise de blanc, va se mettre dans une mer de noir. L'Axe rend si bien hommage au polar qu'il profite de l'intrigue pour laisser passer un message social, voire politique. Immigration et xénophobie pour ce tome. Ce qui profite de la misère humaine, faisant miroiter un pays de cocaïne pour extorquer de l'argent, mettre des vies en péril, et finalement larguer de pauvres airs sans aucun moyen sur les bords d'une plage ou en plein milieu de la Méditerranée. Car l'histoire commence par les skinheads qui se servent de ces déracinés pour se défouler physiquement dessus, par des flics qui fantasment sur leur pouvoir de terreur, sur les passeurs et toute cette mafia. La mafia de l'immigration, la mafia du travail au noir, la mafia des réseaux et tout le reste. L'Axe, les tribulations du Chouka. Le deuxième tome s'appelle La brousse ou la vie, c'est dans la collection Repérage chez Dupuis. Jean-David Morvan au scénario, Toro Terada au dessin, c'est le petit monde. On vous en avait parlé avec beaucoup, 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 beaucoup de plaisir du premier tome. Et donc il vient de sortir le deuxième, Real Favela, c'est chez Dargo. Kumiko est une petite fille très mignonne qui a droit au meilleur de l'éducation moderne. Ses parents sont ambassadeurs, donc ils peuvent lui payer une école privée, une robot nounou, et surtout une console Dreamweaver pour faire des rêves en trucolore HD, et surtout éducatif. Sauf que Kumiko est une petite copine, et échange des logiciels piratés avec ses petits camarades de l'école primaire. Et là, on parle pas de logiciels éducatifs, bien sûr. Kumiko est fan de la cartouche de Dreamweaver, le petit monde, qui lui fait découvrir une vision idyllique des interdits. Oh, c'est trop génial, oh, c'est trop joli, oh, c'est trop superbe. Waouh, quel rêve en couleur. Oh! Alors quand P. Peidra, l'enfant des favelas qui a servi de modèle pour le logiciel, débarque par hasard de nuit dans sa chambre. Elle est dans un rêve éveillé. Ouah, c'est trop génial. Ce que Kumiko et ses quatre frères et sœurs ne savent pas, c'est qu'ils vont se faire kidnapper et que leur voyage dans le petit monde sera sûrement l'occasion pour eux de découvrir des métiers amusants de ce bas monde, comme mule, pute, souffre-douleur, revendeur à la sauvette, esclave, banque d'organes, vaste perspective. Ce que Piedra ne sait pas, c'est qu'après s'être mis à dos une bande de motards et la police, il va foutre un sacré boxon dans tous les étages de la ville. Après un premier tome qui était une vraie découverte graphique avec son univers tout mignon, glauque et son choc des cultures, le deuxième tome a principalement comme intrigue une course-poursuite. Graphiquement plus dynamique, plus orienté action, et le fragile équilibre entre bande dessinée européenne, œuvre arty, manga kawaii trashy et illustration enfantine est à la limite de la rupture. C'est le scénario qui veut ça pour justement doper la tension et la rencontre brutale entre le monde tout gentil et bien huilé des cadres supérieurs et celui des bas de casse, des favelas, des sans moyens de consommer, des sans carte bleue. La grande force créative de Morvan, c'est d'avoir pondu un scénario faussement lisse, cyberpunk fluo, qui convenait tout à fait pour faire exploser le talent de Terada. Jean-David Morvan scénario, donc, et Toru Terada, qui est un dessinateur japonais, au dessin, Le Petit Monde, le deuxième tome s'appelle Real Favela et ça vient de sortir chez Dargo. Midi 17 minutes sur la poubelle des radios, vous écoutez FMR sur 89.1 MHz sur Toulouse et en modulation Dog Vorbis sur le net. En streaming. Et le supplément week-end en podcast. Du sport, lui, il me fait signe. Oh non, non, mais je veux qu'on parle de ça et puis je veux qu'on parle de ça. Non, dans l'ordre, tu m'as dit d'abord qu'on parlait de super-héros, alors je sais pas. Eh oui, si en plus il met pas en place son micro proprement d'entrée.
Non, non, mais d'une certaine mesure c'est un super héros, hein, car il s'agit de Shigenobu Moru Fushi, surnommé l'homme d'acier d'Asie. Recordman du Japon en 98 du lancer du marteau, médaille d'argent au championnat du monde en 2001.
Mais il est pas 13h là, tu es en train de parler de quoi?
Un lanceur de marteau qui est pour l'instant, le champion olympique en titre du lancer du marteau, un titre qu'il a conquis il y a 4 ans à Athènes.
Pourquoi je vous en parle? J'ai oublié de foutre le net. Je suis désolé.
Non, parce que je sais pas si je peux vérifier de suite, savoir si la finale a déjà eu lieu, quoi. C'est pour ça, là, j'ai le programme, t'en fais pas, mais bon. Non, c'est tout simplement pour vous dire que dans l'équipe d'aujourd'hui, qui est vendue comme d'habitude d'Action Supplément le samedi, l'équipe magazine, qui est consacré
on n'est pas les seuls à faire un supplément illustré le samedi.
Ouais, supplément week-end, c'est ça exactement. Ils sont allés interviewer les meilleurs, ceux qui ont gagné le 100 mètres olympique, qui sont encore vivants en fait, hein, tous, donc ils sont encore 13, encore en vie. Et dans le petit supplément en fin de page, eh bien, vous avez carrément 4 pages de manga consacré donc à ce monsieur, hein, Shigenobu Moru Fushi, qui est un personnage réel, donc, hein, c'est lui qui est pour l'instant champion olympique du lancer du marteau. Et Masanori Kadowaki, qui est un auteur de manga très réputé au Japon, bien, qui consacre surtout une grosse partie de son travail aux athlètes nippons, et bien, a décidé de faire un petit cadeau, enfin certainement contre rétribution, hein, à l'équipe magazine, en produisant une petite manga qui raconte un petit peu l'histoire et surtout la façon dont Shigenobu conquiert l'or à Athènes il y a 4 ans. Donc c'est une manga consacrée entièrement au lancer du marteau. C'est dans l'équipe magazine de cette semaine, donc d'aujourd'hui, hein, que vous pouvez acheter, que vous achetez automatiquement si vous achetez l'équipe d'aujourd'hui. Voilà.
Je suis en train de lancer le net, donc j'aurai pas le temps de vérifier, puis tant pis. Mais à côté de cela, t'avais quelque chose de beaucoup plus explosif.
Tout à fait, tout à fait. Avec la deuxième livraison du hors-série Marvel Heroes. Le premier, c'était consacré à Namor, hein, vous vous en rappelez, c'était il y a, grosso modo, il y a une paire de mois. Et là, le numéro 2 sort, donc, c'est-à-dire que hors-série, ça veut dire histoire complète, avec le début et la fin dans le même fascicule. C'est donc de toute façon, hein, comme d'habitude chez Panini Comics, hein, mais c'est en kiosque, hein, c'est pas en librairie, donc hein, c'est un souple. Alors, dans celui-là, alors à signaler que la couverture est de Michael Turner, et on apprend dans le comic box de ce mois-ci que Michael Turner vient de décéder, hein, il avait 36 ans.
Donc, oui, c'était le dessinateur qui avait créé Witchblade et...
Voilà.
Et mince.
Et l'autre.
Oh punaise. JB va me flinguer tout à l'heure quand il va arriver.
Et Phasom aussi, Soulfire.
Phasom, oui, Soulfire. Et il y en avait un autre, ne sais plus. Enfin, c'était toute la génération autour de Wildstorm.
Voilà, Wildstorm, exactement. C'est un des co-créateurs de Wildstorm, hein, d'ailleurs. Voilà, donc couverture donc de Michael Turner pour ce Marvel Heroes qui est consacré, eh bien là, à un super méchant, le super méchant de chez Marvel, on peut dire, hein, parce que c'est la créature qui a été co-créée, enfin bon, ils voulaient pas le faire, mais bon, ils y sont arrivés quand même, par le professeur Xavier et son alter ego dans le mal, à savoir Magneto, et qui ont créé donc cette méchante bête, hein, qui réussit quand même à dégommer pas mal de super-héros, hein, faut le dire. C'est Onslaught, bien entendu, hein. Alors bon, il est vraiment très très répugnant, hein, ça vous devez, miam miam.
Ouais, bon, d'accord. On dirait un sprite de méchant boss de jeu d'arcade des années 90.
Tout à fait. Ouais.
C'est
il est né dans cette période-là, d'ailleurs. Et après avoir justement, il y a eu toute une saga, hein, dans Marvel à cette époque-là, quoi, qui concernait Onslaught et qui était en fait une idée éditoriale, hein, de la part des patrons de Marvel, hein, qui disaient que bon, on était arrivé à un trop plein de super-héros, et donc les lecteurs savaient plus où s'y mettre, comprenaient plus trop grand chose et tout. Il y en avait à tort, à droite, à gauche, à tort et à travers, et donc ils ont décidé drastiquement de réduire le nombre de super-héros. Et comment on fait? Il y a deux solutions. La première, elle est éditoriale, c'est-à-dire que on arrête de diffuser et d'éditer et de produire des comics qui concernent justement ces super-héros qui, pour la plupart, étaient des super-héros secondaires, on va dire, hein. D'ailleurs, en ce moment, on assiste un petit peu un retour en arrière, hein, avec des auteurs réputés qui essayent justement de remettre au goût du jour, hein, qui essayent justement de plutôt s'attarder sur les super-héros secondaires plutôt que sur les grosses valeurs sûres, hein, que sur les têtes d'affiche.
On va en parler tout à l'heure avec Superman et Batman. Et donc, c'est justement cette saturation autour d'un personnage sur lequel trop de choses ont été explorées.
Voilà, et donc dans les années 90, eh bien, chez Marvel, ils se sont dit, il n'y a pas de problème, hein, on va faire rentrer dans la ligne éditoriale le fait qu'il y a plein de héros qui vont disparaître et tout, quoi. Et on a ancré un petit peu Onslaught, qui lui est un super héros méchant, un super vilain, qui lui dégomme du super héros tranquille, sans problème. Mais il les dégomme à fond les manettes, hein. C'est-à-dire que t'es mort, tu reviens pas, hein, y a pas de problème.
J'atomise, je disperse. C'est le puzzle.
Et donc dans cette histoire, par la suite, hein, parce que vu qu'il fallait quand même pour que ça paraisse crédible, qu'il dégomme aussi des héros principaux, quoi, mais que ces héros principaux, il fallait les faire renaître un petit peu plus tard, ça a donné lieu à une deuxième saga qui a été la saga Heroes Reborn. Donc parce qu'en fait on avait appris qu'ils n'étaient pas vraiment morts, mais qu'ils avaient été versé dans une dimension négative du vrai monde. Enfin bon, laissez
ouais,
tomber.
En fait, d'habitude, en général, c'est on fume beaucoup.
Voilà, 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 voilà. Et donc là, eh bien, dans cette histoire de Onslaught, eh bien, on se rappelle que bien c'est le fils de Red Richards et de la femme visible, Franklin Richards, hein, qui réussit justement à dégommer Onslaught, hein, et à le balancer également dans une autre dimension. Donc si casse-toi, tu peux plus revenir, c'est bon. Ben le problème c'est que là, ben il revient, et donc ben ça fout un peu le why. C'est très très bon, hein, c'est dessiné par Bob Liefeld au dessin, et surtout c'est scénarisé par un certain Jeff Loeb, un des scénaristes historiques, on peut dire, de Marvel, qui actuellement fait moins de scénarii, là il en fait de temps en temps comme ça, pour Onslaught bien entendu, hein, mais sinon on le voit plus à la télé, hein, où il est producteur exécutif sur New York District par exemple. Il est également producteur exécutif sur Heroes, et oui. Et donc ça lui fait certainement plus de pépettes à gagner à la télé en tant que producteur que en étant scénariste chez Marvel, surtout sous la houlette de Stan Lee, ça c'est clair, ça y a pas de problème. Donc mais ça se laisse lire vraiment avec beaucoup de bonheur, hein. Moi j'aime bien le dessin, et du fait que c'est Onslaught et que de par le passé bah il a dégommé plein de super-héros, ben là on a droit à dans cette histoire à plein de super-héros, Captain America, Thor, enfin l'ensemble des Vengeurs bien entendu, hein, les Quatre Fantastiques, la Sorcière Rouge, hein, puisque c'est la Sorcière Rouge également un petit peu à l'origine de la revenue de Onslaught. Oui. Pour cette histoire, hein, donc bon, ça se discute toujours, hein, mais bon, on se laisse bercer par le flot d'histoire, et ça donc Onslaught revient dans ce Marvel Heroes numéro 2 hors série qui est disponible dans les kiosques.
Bon, bah maintenant on va y aller. Cool! Darwin Cook au scénario, Tim Sale au dessin, Superman Confidential, alors, Kryptonite.
On parlait du héros juste avant, et Tim Sale quand même un des personnages,
un des dessinateurs
de la série Heroes.
Oui, tout à fait, c'est lui qui a
fait
tous les tableaux.
C'est lui qui fait les tableaux qu'on voit dans la série.
Et pourtant, on reconnaît pas du tout le style qui est beaucoup plus lumineux. Justement, si on avait parlé de Catwoman à Rome et qu'il avait dessiné, et Superman Confidential, ça a rien à voir à ce que vous avez vu dans la série, quoi. Graphiquement, je veux dire. Superman Confidential, tome 1, s'appelle Kryptonite. Et vient de sortir dans la collection DC chez Panini Comics. Clark Kent s'est fait une place dans le Daily Planet en quelques mois. La preuve qu'à Metropolis, tout est possible à celui qui en veut. Et Superman a fait sa place dans le cœur de chacun. Ah, Superman. Mais il est en proie à quelques doutes, Superman. Quelles sont ses limites? Il a la crainte d'être blessé, mutilé, voire tué, car il doit bien exister une faille. Et qu'en deviendrait-il si les super méchants l'apprenaient? Des préoccupations qui sont au milieu de son travail de reporter. En voici que son chef l'envoie en reportage d'investigation avec Lois Lane et Olsen. Car la venue d'un casino à Metropolis n'est pas dans les goûts du rédacteur chef du Daily Planet. Le patron Playboy, Anthony Gallo, en fait beaucoup trop. Il doit cacher des liens avec la mafia, quelque part. Redonnant un lustre digne des grandes cités rétro-futuristes des années 1930, Tim Sale, le dessinateur donc du très sensuel Catwoman à Rome, donne des références graphiques évidentes à la série animée des frères Fleischer, mais aussi au Brouse, illustration publicitaire des années 1960. Son jeu des cadrages, ses ombrages, démontre une maîtrise cinématographique. Si on pourrait ne pas comprendre le traitement trop caricatural des personnages au début de la lecture, il finit par sembler tout à fait naturel finalement. L'idée la plus étonnante, c'est ce rocher de Kryptonite, personnage à part entière, qui a droit à ses propres lignes de dialogue. La manière de souffler à Clark Kent sa véritable origine se montre finalement pas moins illogique, avec une révélation qui brisera le cœur de l'homme d'acier. Superman est un mythe vivant. Il n'appartient pas à des auteurs, mais à son éditeur, hein, cas fréquent aux États-Unis, pratiquement absent en Europe ou au Japon. Spirou reste une exception finalement. Ce qui permet de faire autant de modifications que l'on veut tant que l'éditeur l'accepte. Et DC Comics n'arrête pas d'enchaîner les mini-séries sur les origines de Superman. Le surhomme est devenu un personnage malléable, comme de la glaise, un golem éditorial si vous préférez. À partir d'un postulat, celui de sa genèse, extraterrestre élevé en humain, qui devient après le super-héros de sa planète d'adoption, on peut lui donner mille destins sur ses origines, sur une arrivée probable sur le côté communiste de la planète Terre, dans Superman en Red Son, ou l'homonyme fictionnel d'un simple citoyen dans Identité Secrète. Travailler les origines de Superman est devenu un exercice de style dont il faut arriver à faire apprécier au lecteur ses variations et ses improvisations dans la partition de la mythologie. Comme s'il était un morceau de jazz, ça swing plus ou moins bien, suivant le talent de ses interprètes, scénaristes et dessinateurs. Par exemple, la lecture et la partition par Wade et You sonnait plutôt plat, mais le lecteur, si son n'importe quel album a son nom, ne peut s'empêcher de fredonner le thème de Superman. Kryptonite est une interprétation qui mise sur les cuivres et le déhanchement des personnages pour amener au climax symphonique. Les breakdowns laissant en place au monologue solo de la pierre spatiale soulignent ces images chaleureuses. Comme quoi, fallait oser insérer le « Ainsi par les Arasosra » de Richard Strauss dans le thème de Superman par John Williams. Darwin Cook au scénario, Tim Sale au dessin. Superman Confidential, le tome 1, s'appelle Kryptonite. C'est une mini-série sortie en histoire complète dans la collection DC chez Panini Comics. Ne pas quitter, votre correspondant va vous mettre en ligne. Veuillez ne pas quitter, votre correspondant va vous mettre en ligne. Il doit en avoir marre à force. Bon, JB, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, voilà, un petit peu mieux sur le son, voilà, on s'installe un petit peu en direct. Thomas, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Voilà, tu nous reçois haut et fort.
Bonjour.
Bonjour. Bah attends, mais c'est... Oh, non, là, je te montre le son trop fort.
Là, ça va. Bonjour, bonjour.
On va y arriver. On a un petit souci. Tu as mis le... Ouais. C'est le casque de JB qui sature qui faisait les Larsen. C'est peut-être ça.
Ah.
Voilà. On va y arriver. Bon.
Ça va aller.
Ça va aller. Donc, je pense que les réglages maintenant vont être bons. Donc, on va pouvoir y aller. Allez, hop. Tout le monde à la Batmobile. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. La chronique cinéma vous est présentée en totale impro avec un JB qui va lire laborieusement ses notes et Thomas qui va reprendre ça à la volée par téléphone en Dolby Mono Surround.
C'est pas vrai, JB a encore préparé quelque chose.
Mon dieu, oui, c'est vrai.
Oula.
Ça va être chaud.
Bon, d'abord, je dis bonjour à tous les fromages blancs, puisque moi je vous amène en plein milieu de la forêt des Landes, au milieu des grillons.
Donc voilà, donc Thomas est sur une aire d'autoroute, lui il ne fait pas ses chroniques en direct au volant. Je l'ai déjà fait, c'est un truc à ne pas faire, voilà, il y a prescription. Ça m'a rien coûté pour une fois. Et donc nous allons parler d'un film qui nous a tous retournés. Je crois que le terme est faible.
Oui, Scotty. D'ailleurs, je pense que c'est une des rares fois où tout le monde a vu le film en plus.
Ouais. On s'est pressé. Le film en question, il s'agit du reboot de la licence sur Batman. Après avoir parlé du reboot de Superman, c'est là aussi c'est une variation sur les origines de Batman.
C'est qui se lance ?
Bah toi, pourquoi pas ?
Allez, très bien. Alors, c'est un film réalisé par Christopher Nolan, donc on sait tous que dans la tradition des films sur les Batman au cinéma, chacun en fait deux. Donc on a eu le meilleur avec Burton, le pire avec Schumacher, et du, ma foi, très bon avec Christopher Nolan, ce qui confirme le parti pris du premier film Batman Begins, en explorant la voie vachement brutale du brut de décoffrage du premier degré. C'est-à-dire que Batman, il va utiliser les armes développées pour l'armée, donc on va avoir une Batmobile qui ressemble à un tank, et puis il va pas s'embarrasser de toute l'esthétique gothico-burtonienne qu'on fait dans les deux premiers, et encore une fois, totalement gâché dans le 3 et le 4.
Ouais, c'est vrai que le gothique avec des couleurs fluo, ça fait émo, ça fait ridicule.
Oui, ça fait un peu boîte de nuit avec des tétons qui pointent sur les armures, c'est génial. Et par contre, ouais, donc comme Batman a plus des gadgets développés pour l'armée, on a un peu le retour de bâton, c'est-à-dire que ça frise un petit peu à chouïa avec James Bond, mais bon.
Ah, t'as eu la même impression que moi finalement sur le personnage de Fox.
Oui, et puis c'est vrai que le film...
M et Q à la fois.
Oui.
M et Q à la fois.
Oui, voilà. C'est vrai que dans son premier quart d'heure, le film pouvait laisser un peu craindre ça, mais finalement, on rassure tout le monde, il n'y en est pas du tout question dans un film qui est quand même assez long, hein, je crois 2h30 à peu près.
2h27 exactement.
Voilà.
Il n'y a pas deux séances le soir au multiplex en centre-ville, il n'y en a qu'une.
Ah,
vous ne faites pas piéger.
C'est pour ça que je suis parti en périphérie, j'ai pu le voir en deuxième partie de soirée. La version européenne fait 2h27, la version américaine fait 2h31. On aura sans doute un final cut ou un director's cut au moment de la sortie DVD.
Ah ben mince, tiens. Alors ici, que ceux qui ont vu le film en VO lèvent le doigt.
1, 2, 3. Eh, JB est allé dans un multiplex, donc il n'a pas vu en VO.
Je n'ai pas eu cette chance-là.
Ah mince, alors JB n'était pas tout seul, puisque nous on l'a vu en VF. Faut dire qu'au début ça fait un choc, mais après on s'habitue franchement. Bon. Après, c'est clair qu'on peut toujours le voir en VO. Bon, alors évidemment, on va enfoncer des portes ouvertes. Hein, le principal attrait du film, c'est, hormis le fait qu'il soit mort après, c'est le Joker, hein, c'est Heath Ledger.
C'est une interprétation. D'ailleurs, l'ensemble du casting est très très bonne dans son interprétation.
Ouais.
Vraiment d'un très très haut niveau, mais c'est vrai que le Joker, c'est à pleurer. Non, mais JB, c'est toi qui as le listing, c'est toi qui annonce les.
D'accord, aucun problème. Le Joker, Heath Ledger. Tu en veux d'autres ? Allez, c'est parti. Bon, moi, à mon goût, le plus robotique et le plus bâton dans le cul acteur que je connaisse, c'est Christian Bale. Et, bon, c'est une qualité en tant que Batman, en tant que Bruce Wayne, j'ai lu un peu amer. Mais bon, on est habitué avec cet acteur à voir ça. Quoi.
Je suis absolument d'accord avec toi. C'est, en Batman, il se fait complètement Bruce Wayne se fait complètement bouffer par la version Batman. Et il faut dire quand même que Michael Keaton en imposait vachement plus.
Étonnamment, tout à fait. Après, effectivement, vous avez, moi je trouvais parfait le Two-Face Harvey Dent qui est Aaron Eckhart.
Il est impressionnant, c'est vraiment l'homme politique qui est lisse, qui se bat inflexible parce que c'est la position politique où il est, puisqu'il est procureur général et qu'aux États-Unis ils sont élus. Donc,
c'est un blond à une gueule d'ange, il est parfait dans le rôle.
Il est très très bon.
Ouais, le seul truc c'est que, enfin moi je suis pas très fan de l'acteur parce que c'est vrai qu'il avait quand même fait une carrière un peu de merde avant. Puisque
ça sauve tout.
Regarde Thank You for Smoking. Juste oui, pour lui.
En compagnie des hommes.
Ok.
Entre autres.
Alors il a c'est quand même un peu compromis dans le pire John Woo qui existe, c'est Paycheck, où il faisait un méchant au ras des pâquerettes. Ensuite il a fait il s'est compromis aussi dans le totalement raté de De Palma, de Dahlia Noir, où il était absolument vraiment balé dans le cul encore plus que Christian Bale, et puis il était fantomatique, il servait à rien. Alors là pour une fois, effectivement, il joue le rôle d'un espèce de ultra bright homme politique, enjeu blanc, etc. Bon, c'est vrai que là, il est un peu bien dirigé, on va dire.
Mais moi, je le trouve très très bon, justement, dans ce rôle-là. On sent vraiment que c'est l'homme politique qui va aller très loin. On sent qu'il va faire une carrière de juge à la Cour suprême et tout ça. Et que c'est un destin qui est brisé.
Oui, tout à fait. Il a un avenir tracé brillant. Et il va trop loin dans sa psychologie. Et on en retourne. Ça, c'est vraiment le côté extrême, je trouve, qui est très bon dans ce film. C'est que... on pourrait donner raison aux méchants. Ce que dit le Joker, tous les dialogues de tous les méchants sont tous très bons. Ils ont tous, on
c'est
vous
pas
dirait, une raison.
C'est pas des méchants d'opérette. C'est là où ils sont très forts, c'est qu'ils ont une idéologie derrière.
Mais en revanche, les gentils, autant le Batman que le Harvey Dent, puisque Dent est au départ un gentil, ont tous une idéologie vraiment extrémiste. Et on en revient à une petite polémique avec la politique de Bush actuelle.
Parler de Superman, Superman c'est un super-héros. C'est normal qu'il applique une justice. Il investit divinement, il est supérieur à nous. Batman, c'est injustifié, c'est quoi ? C'est un mec qui a une lubie, qui a du fric et qui décide d'appliquer, de se mettre en dehors de la loi des hommes.
C'est pas une lubie parce que, bon, vu ses origines, bon, bah, il y a une histoire de vengeance au départ, quoi.
Oui.
C'est un désaxé.
Tout à fait.
Là où le film fait très fort également, c'est que c'est progressivement dans le film, on comprend le sens du titre qui, on va dire, peut aiguiller sur de fausses pistes les fans de la BD des Frank Miller, qui reprennent à chaque fois le Dark Knight. Bon, il faut savoir que c'est pas une adaptation du tout de la BD de
Frank Miller.
Ça n'a rien à voir.
Mais c'est l'esprit que tu comprends d'où vient le titre, et c'est vraiment très très fort.
C'est ça que je trouve génial. C'est les 5 dernières minutes du film, justement, on est proche de l'esprit de la bande dessinée, alors qu'au
exactement.
Début on se dit mais c'est une trahison et tout ça. Après tout avoir vu, mais quand même, c'est quand même très fort. Moi, ce que je trouve fabuleux, ça reste quand même l'interprétation du Joker qui a foutu un tic au personnage, chose qu'on ne peut pas faire en bande dessinée. C'est exactement le genre de choses qu'on ne peut pas faire. Et le tic est, il s'insère naturellement. On se dit, ben oui, on ne peut que l'avoir ce tic là.
Oui, et
avec la langue.
Oui, avec la langue, ouais, il est en train de se passer la langue tout le temps. Et en plus,
sur les cicatrices, le fait, justement, toutes les incohérences sur l'histoire du personnage, et ben on raconte plusieurs fois d'où vient, il raconte plusieurs fois d'où vient ses cicatrices, et c'est logique.
Ouais.
Tout devient logique à partir de là, c'est une cohérence incroyable, chose qu'on n'avait pas eu jusque-là dans les films de Batman, excepté donc le dernier, le Batman Begin. Ça tient, c'est
et
solide.
Puis, avant de revenir sur le casting, puisque là on se penche un peu plus sur la cohérence de l'ensemble, il faut quand même souligner aussi la cohérence visuelle, puisque bon, Christopher Nolan a exploré un Gotham City qu'on n'a jamais vu avant, puisque c'est plus proche de New York. Faut dire aussi que Gotham City à l'origine avait été inspiré par New York. Et
c'est un mélange de New York et de Chicago. Hein.
Voilà.
Les Gotham Towers, c'est plus ou moins justement que les grandes tours de Chicago à l'origine qui étaient reprises. Mais il y a une Liberty
oui.
Miss à Gotham.
Il faut aussi souligner un détail très très amusant et très pertinent en même temps, c'est que Nolan prend l'exact contre-pied de toutes les adaptations de Batman avant, c'est-à-dire qu'il fait apparaître Batman autour, avec du blanc autour. C'est-à-dire que sa Batcave, qui n'est plus une Batcave, c'est tout le temps éclairé sous des néons qui sont aveuglants. Quand il apparaît au Joker dans la salle d'interrogatoire, c'est la lumière qui fait que Batman se dessine autour de justement dans la lumière. Et pendant tout le film, on voit Batman dans la lumière.
T'as pas eu la même impression que moi qu'on a eu un Batman monochrome ?
Si, tout à fait bleuté dans l'ensemble. Mais de toute façon, c'est très proche, j'ai l'impression, pour moi, les films noirs. Et j'avais... Dès le départ, la scène d'ouverture que je trouve fabuleuse, le braquage, je vais rien dire dessus parce que c'est monumental. Comme
c'est
un truc qui.
Je sais que tu es
c'est
fan
du
Michael Mann.
Non mais
voilà, c'est du Michael Mann pur et dur.
On est d'accord. On est d'accord. C'est tourné à la Michael Mann, c'est mis en scène à la Michael Mann et le scénario aurait très bien pu être dans n'importe quel autre film noir.
Et quand tant qu'on parle de cohérence également, on va revenir sur le casting. C'est vrai que je sais pas si ça vous a frappé, mais il faut dire que les 4 premiers films avaient toutes une putain de bimbo absolument inaccessible, que ce soit Kim Basinger ou Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, et cette fois on a justement un choix de casting féminin qui correspond encore une fois à la ligne du premier film, c'est-à-dire Katie Holmes qui n'a pas voulu remplir sur celui-là, et
heureusement
par, Voilà, exactement, et une, enfin, remplacée par une Maggie Gyllenhaal qui correspond à tout à fait à l'esprit anti-inaccessible de Katie Holmes. Et vraiment, on voit que Christopher Nolan a son idée sur l'interprète féminine et qui correspond absolument pas aux beautés glacées à la Nicole Kidman, tout à fait. Ouais. Je sais pas votre avis dessus. C'est vrai qu'elle peut faire potiche un peu la Gyllenhaal, mais quand on y réfléchit, ça se tient.
C'est ça qui est génial, c'est le côté naïf et tout ça qui est brisé d'entrée. C'est un film qui est brisant. C'est par rapport aux autres Batman où à la fin, bah voilà, le gentil gagne à la fin, tous. Là, c'est le film où non, n'a pas gagné à la fin. C'est un film qui le brise, qui le casse. On sent que le troisième va être très très fort de ce côté-là. Ils ont encore monté le niveau. Pour moi, ça reste tout à fait justifié. C'est au-delà de la performance de l'acteur et donc du tragique autour d'un des acteurs principaux du film. C'est un film complet. Il a été très bien pensé. Quand Warner dit le film a été remboursé parce qu'on s'est battu contre le piratage, c'est faux. Le film a été remboursé parce que c'est un film d'une très haute qualité artistique avant tout. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence par rapport à la plupart des autres films qui sont sortis jusque-là.
Et c'est aussi un excellent film qui prouve aussi qu'on peut faire deux bons films comme le Batman, le premier de Tim Burton de 89 et celui-ci autour d'un même personnage avec deux visions totalement différentes à l'opposé de Nicholson et de Nicholson est à l'opposé d'Heath Ledger. Et c'est vrai que les deux se tiennent, l'un est un bouffon totalement rigolard, lui c'est un psychopathe, celui de Dark Knight qui est totalement obsédé par l'anarchie et les explosions.
Il ne fait absolument pas rire, et en même temps on se dit mais il est complètement désaxé, il fait n'importe quoi, mais en même temps il a un plan. Rien que la scène d'ouverture, le tour de magie.
Le tour de magie est fabuleux.
Tu te dis non, là on va pas rigoler du tout avec lui.
Il y a une façon très, très particulière de faire disparaître des stylos.
nous tairons sur le sujet. Nous préférons à ce que nos auditeurs aillent voir le film et ils prennent une belle claque comme nous.
Ça vaut le coup, honnêtement.
Alors, petit quiz, d'après vous, dans les six films dont on a parlé tout à l'heure, c'est la combien d'interprétations d'Harvey Dent? On a eu combien d'interprétations d'Harvey Dent dans les six films?
Dans les quoi?
Dans les deux premiers Burton, les deux Schumacher et les deux Nolan.
Alors, déjà, bon, de toute façon, il y en a une dans la série des années 40, une dans la série télé des années 60.
On parle des films.
Mais dans les films... Je sais pas, je suis d'accord avec Thomas, avec du sport qui a fait un signe.
3 parce que je crois que Jim Carrey qui fait double face dans les autres.
Non, c'est pas double face, c'est Mr. Man. C'est l'homme mystère.
Il fait l'homme mystère, Jim Carrey.
Non, c'est Tommy Jones qui fait.
Tommy Lee Jones, bah justement, je crois qu'on le voit deux fois. On le voit deux fois de suite dans les Batman de Schumacher.
En fait, on voit une première apparition d'Harvey Dent dans le Batman Returns de Tim Burton avec Catwoman, où le Harvey Dent est noir.
Oui.
On le voit en second plan.
On voit les affiches.
Oui, tout à fait. Et on le voit d'ailleurs en train de parler devant le pingouin et tout, et se faire voler la vedette littéralement par le pingouin. Et puis évidemment, on a la version complètement à chier de Tommy Jones qui sabote un des personnages les plus intéressants de la mythologie Batman quand même.
Oui. Bon, mais en tout cas, ce film a beaucoup d'atouts. Effectivement, il a un scénario qui est ficelé de manière béton. Il a une ambiance avec... Bon, tu parles notamment de l'esthétique, mais il faut aussi parler au point de vue sonore. Moi, je trouvais que le score...
Ah, le son est impressionnant. Surtout, il y a ce qu'on appelle une montée continue au bout d'un moment.
C'est un crescendo parfait. Fait par Hans Zimmer et James Howard, qui sont d'une sobriété assez étonnante.
Et dans la scène de la boîte de nuit, il y a les Boom Boom Satellites. Comme quoi, ils sont habitués aux films qui cartonnent. Et si, je les ai reconnus. Mais il n'y a pas à redire. Par contre, ça n'est définitivement pas un film à voir avec les enfants. Ça n'est pas un film familial.
Les ados, pour moi, franchement, le coup du tour de magie, et d'autres petits trucs comme ça.
Les ados, ils n'auront pas de soucis.
Il y a le moins de 10 ans qui aurait dû être attribué à ce film sans problème, parce que j'étais dans la salle avec beaucoup de monde et on a vu arriver une famille avec un petit gosse qui ne devait pas avoir 8 ans et tout. Il est sorti au bout de 20 minutes et il est Il est revenu parce que il devait aller pisser, mais il est reparti aussi parce que bon, c'est vraiment un film qui n'est pas fait pour les enfants du tout, hein, ne serait-ce que par la performance.
JB, toi tu as l'affiche IMDb. Est-ce qu'il y a une classification?
Il n'y a pas de classification en France. Hein,
en France, ils n'en ont pas donné.
Alors, je vais vous dire ça tout de suite.
Il y a également le maquillage de double face qui est criant de vérité, je veux dire.
Enfin, c'est pas un maquillage, c'est l'infographie, c'est impressionnant.
Très, très, très impressionnant. Hein, donc, ne serait-ce que pour ces deux aspects, hein, qui sont quand même les aspects principaux du film, désolé les enfants, vous grandirez avant de pouvoir le regarder. Hein.
Effectivement, la France est un des rares pays qui l'a accepté à tout
public.
Mais je vois dans l'ensemble, ça tourne entre 13 et 16 ans. Je vois l'Irlande, 15 ans, Finlande,
c'est
13
ans. C'est les États-Unis qui m'intéressent.
Je pense que ça doit être R.
PG-13.
Ah, bah ouais.
Ah,
13.
Quand même. Hein. C'est pas évident pour un film à ce budget qu'une major l'accepte. Hein.
Ouais, mais je pense que c'était une des spécifications de Christopher Nolan au départ, hein, qui a imposé justement de pouvoir faire un PG-13 de telle manière à pouvoir aller très très loin. Dans ce film-là, du moins, hein, le premier, était un petit peu plus léger. Le troisième, on va voir ce que ça donnait. Mais il y avait une spécification de Christopher Nolan, une des conditions, hein, qu'il voulait avoir, hein, avant de commencer le deuxième film, c'était justement de pouvoir aller plus loin et donc d'être en PG-13. Et là, pour une fois, les producteurs ont dit OK,
on leur dit éternellement merci parce que c'est vrai que c'est sans doute le meilleur film, c'est pour moi, à mon goût, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le meilleur film, c'est le meilleur Batman de parmi tous les films,
largement. Okay.
Mais en tant que film de super-héros, c'est celui où j'ai pris la plus grosse claque que j'ai jamais eue, et en général je suis plutôt sceptique quand je
vois ça. Mais c'est pas
vraiment
un film de super-héros, c'est ça qui...
C'est entre un film noir et un film de super-héros, et c'est enfin un film de super-héros pour adultes.
Comment... Un film de justicier, JB, attention à tes mots. Hein.
Normalement, c'est moi qui redresse les torts là-dessus.
Effectivement, aucun des méchants, aucun des gentils n'ont de réels super-pouvoirs. Vous avez, on va dire, trois méchants, entre guillemets. Alors, Vedant, je mets entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir? Rien du tout. De la tchatch et des...
Et c'est la tchatch qui est extrêmement impressionnante. Les dialogues sont d'une finesse, sont très très bien écrits. Ça dépasse même la plupart des dialogues que j'ai vus jusque-là.
Tout à fait.
De John Romita et tous les autres.
La
ça
plupart
rien
du
à
temps,
voir.
On voit une scène dramatique entre deux super-héros. Bon, on se dit que c'est pour attendre la prochaine scène d'action ou le prochain suspense. Pas du tout. C'est vraiment prenant. On en se régale à tout moment, dans toute altercation entre le Joker et et les personnes qu'il va rencontrer, et que ça soit les flics ou que ça soit Batman, c'est parfait.
La manière dont Bruce teste Harvey Dent est fabuleuse d'ailleurs.
Oui. En tout cas, c'est clair qu'on est très très loin de la version mercantile pour vendre des jouets du Batman et Robin. Hein.
Faux. Vous avez une licence chez Lego qui est très très bonne, avec justement du merchandising du nouveau Batman qui
on
est parfait.
On reconnaît le geek qui se cache quand même.
Ah, tu me fileras les adresses, JB. Hein.
Lego.com, tout simplement.
Thomas, toi tu es de retour la semaine prochaine.
Oui, c'est donc la semaine prochaine, il y aura la chronique du DVD Peur du Noir ainsi que du film X-Files Régénération qui, j'espère, sera encore à l'affiche.
D'accord, va falloir se le mater, hein, si c'est pas une sortie technique, mais... Donc voilà, merci en tout cas d'avoir été par téléphone, et donc on va te relâcher, en attendant, une petite prog musicale spéciale autour de Batman. This is for you. Sur FMR dans le Super Weekend.
Saturday mornings, watching this old house upstairs in your office. street. 4 a.m. The kitchen light's still on. Cockroaches crawling. Dolly again. Hanging out in the reception. Chain smoking cigarillos. For this space case nonchalance. Attitude. More.
Quoi donc?
Hell, this is for you. C'est un morceau qui date de, je dis une bêtise, on dit il y a une dizaine d'années, voilà.
Bah comme toi, toute la musique que tu passes généralement.
Oui, je suis un vieux, je sais.
Je peux t'assurer que même aujourd'hui, il y a encore des très bons albums qui sortent.
Ah oui, bah là, on entend dans le fond depuis tout à l'heure, on entend dans le fond Amon Tobin Chaos Theory, bande son d'un jeu vidéo. Du sport, lui, il voulait continuer sur les...
Ouais. Mais c'est ce qui fait aussi l'excellence de ce film, Dark Knight Batman, c'est tous les seconds rôles. Tous. Parce qu'ils sont interprétés par des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir si souvent que ça au cinéma. Exception faite de Eric Roberts, le frangin de Julia, qui lui est un habitué plus des séries B, des séries Z, parce que bon, il faut bien manger, et puis bon, que ça a l'air de bien lui plaire, hein, de toute façon, qui est plus un guest star dans les séries, on va dire, hein, c'est-à-dire un personnage qui intervient dans un épisode d'une série, qui n'a pas eu de série régulière, à ce que je sache, enfin, j'ai pas trop cherché non plus, mais par contre, il y en a plein d'autres, et on parlait de la série d'ouverture avant dans la banque, hein, le braquage de banque, et ben, le type qui a le gun shoot, William Fichtner, bien entendu, c'est Mahone dans la série 2 de Prison Break. Hein. Mais oui, l'agent Mahone, ah oui, dans la, à partir de la saison 2, quoi. Il y en a d'autres également, Anthony Michael Hall, qui est assez méconnaissable, on va dire, hein, quand même. Vraiment très très méconnaissable, mais qui est quand même le personnage récurrent dans la série Dead Zone, tiré du même film.
La vieille série?
La série Dead Zone, quoi, qui était encore à l'affiche il n'y a pas si longtemps que ça sur M6.
Ok, donc je dois confondre, évidemment.
Ouais, sans problème.
J'ai pas la télé, tu sais.
On va parler également de Nestor Carbonell, qui interprète le maire de Gotham City. Nestor Carbonell, et alors là, le clin d'œil, bon, c'était vraiment pour les geeks, à mon avis, hein, parce que c'est le rapport de Batman avec Batman, bien entendu. Nestor Carbonell est le personnage qui interprète Batmanuel dans la série The Tick. Voilà. Et donc, quand vous voyez la version originale en version anglaise.
C'est tiré d'une bande dessinée, ça?
Non, c'est une parodie de super-héros en série live qui a été diffusée sur Série Club en français.
Alors, c'est une bande dessinée au départ.
Bande dessinée au départ. Alors la série n'a pas connu de succès, c'est-à-dire que bon, a été droppée au bout de 6 à 8 épisodes, je crois, hein.
Il y a eu 6 épisodes produits, 4 de diffusés aux États-Unis.
Voilà, c'est ça. Donc nous on en a vu 6, hein, en France, parce que bon, bah Série Club avait décidé de tous les passer, et dans le premier, on voit très bien dans le premier épisode, dans la version française, Nestor Carbonell alias Batmanuel qui se présente, qui arrive et qui dit "Hey, bonjour, je suis Batmanuel." Et il passe son temps à longueur d'épisode à essayer de sauter Miss Liberty. Enfin bon.
Oh, il drague pas mal au téléphone.
Ah oui, non, mais il drague. Il fait pas que draguer, hein, d'ailleurs. Hein.
Dès qu'il y a un coin. On the roof, of course.
Et ce qui est assez rigolo, c'est que pour une fois, justement, dans cette série, c'est un acteur qui n'a pas tellement d'accent. Bon, il est surtout cantonné à des rôles d'hispano, de chicano de service et tout. Hein. On le voit encore apparaître dans la série Cold Case. C'est le frangin de Danny Pino, l'un des inspecteurs de la bande d'inspecteurs dans Cold Case. Hein, c'est l'hispanique qui d'ailleurs se tape la sœur de Lily Rush.
On veut pas savoir.
Voilà. Et on remarque que bon, à chaque fois, on lui file un accent à couper au couteau, chicano et tout, parce que bon, il interprète des rôles de chicano. Alors que là, bon bah ok, bah, on remarque qu'il parle un anglais tout à fait remarquable, enfin pour ceux qui ont vu la version originale bien sûr, hein, et que donc il n'a pas d'accent, donc bon, arrêtez de nous foutre des putains d'accents à la con là, hein, je dis ça au doubleur parce que bon, il y en a un petit peu marre aussi. Il y a également Michael J. White, celui qui bon, on va pas en parler, qui joue le rôle du parrain de la mafia Black, qui était également dans le film Spawn il y a 10 ans, hein, faut se rappeler aussi de ça quoi.
C'était le général.
Voilà, donc ça nous fait quand même une bonne pléiade d'acteurs, hein, qui de second rôle, hein, qui vraiment, je pense, ont été choisis parce qu'on savait qu'ils tenaient la route et puis ils allaient rehausser un petit peu.
Le casting était d'un
casting
très haut niveau.
Est en béton de toute façon, hein, pour ce Batman Dark Knight. Voilà, on clôt le sujet, hein, concernant Batman, et puisqu'on est dans le noir, eh bien on va quand même parler de quelqu'un qui s'était lui-même surnommé The Black Moses.
Ok, on l'envoie ?
Ouais, on l'envoie.
Chocolate Salty Boys.
Thank you very much. I'm Chef. This song is off my second hit album.
Allez, c'est une recette et on l'a en VO. Vous pouvez pas comprendre les paroles, c'est dommage.
Tablespoons of cinnamon and two or three egg whites, a half a stick of butter melted. Stick it all in a bowl, baby. Stir it with a wooden spoon. Mix in a cup of flour. You'll be in heaven soon. Say, everybody, have you seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a quick pick-me-up, just stick my balls in your mouth. Ooh, suck on my
chocolate salted balls. Stick them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of vitamins and good for you. So suck on my balls. Want a cup of unsweetened chocolate and a half a cup of brandy. Then throw in a bag or two of sugar and just a pinch of vanilla. Grease up the cookie sheet, 'cause I hate when my balls stick. Then preheat your oven to 350 and give the spoon a lick. Say, everybody ever seen my balls? They're big and salty and brown. If you ever need a quick pick me up, just stick my balls in your mouth. Suck on my chocolate salted balls. Put them in your mouth and suck them. Suck on my chocolate salted balls. They're packed full of goodness, high in fiber. Suck on my balls.
Hey, wait a minute. What's that smell? It smells like something burning. Well, that don't confront me, nah. Long as I get my rent paid on Friday. Baby, you better get back in the kitchen. 'Cause I got a sneaking suspicion. Oh, man, baby. Baby, you just burned my bowl! My balls on fire. Help me spin it. My balls are burning. Give me some water. Put some water on me. My balls are burning. Oh my goodness. I'm blowing. Do something. Ooh, suck on my chocolate salted balls. Put them in your mouth and suck them. They're on fire, baby. Suck on my chocolate salted balls. Put them out, baby.
Alias
le chef cuistot dans le lit du South Park.
Eh oui, Isakai, ça a une actualité.
Bah, une actualité, hein, il est morbide. Mort la semaine dernière, donc à la maison chez lui, à l'âge de 65 ans.
Plus pas beaucoup.
À Memphis, hein, puis il était né juste à côté, à une vingtaine de bornes au sud de Memphis, à Covington, dans le Tennessee. Bon, pour l'historique de sa carrière musicale, ça je vous le ferai après à partir de 14h, hein, puisque bon, il y aura carrément une heure, pas de Isakaïs, mais surtout de tout ce qu'il a pu composer pour les autres. Il y aura quand même un petit peu de Isakaïs, rassurez-vous. Par contre, puisqu'on est dans la télé et dans le cinéma, Isakaïs, on l'a vu également aux écrans, parce que la première partie de sa carrière, effectivement, est musicale. Alors on se rappelle qu'il a composé, il est très connu pour cela, il a composé la musique de Shaft, hein, l'original, bien entendu, en 71. Mais également cette musique de film là qu'on entend en ce moment, qui est la musique du film qui a suivi deux ans après, qui s'appelle Tough Guys.
Je la mets, je savais pas que c'était maintenant qu'il fallait mettre.
Ah bon, ouais.
Donc ce n'est pas ce qu'on entendait, mais c'est ce que nous avons entendu.
Voilà, ça.
Parfait ce morceau.
Voilà, donc Tough Guys, un film italien, on va dire, hein, puisqu'il est réalisé, c'était les polars italiens, hein, puisque bon, ben, dans les années 60, c'était surtout les westerns italiens, les peplum et tout ça. Et bon, le genre s'est un petit peu usé, c'est autodétruit lui-même, et dans les années 70, les Italiens ont été très très forts au niveau du polar. Et donc, on va tourner tout et n'importe quoi, avec bien entendu hein, des castings... c'était un petit peu tout et n'importe quoi, hein. Mais bon, c'était l'un des premiers rôles, hein, d'ailleurs, de Isakaïs à l'écran, donc Tough Guys, les durs en 74. En même temps, il a fait Truck Turner, on écoutera le morceau un petit peu plus tard. après, hein, c'est le dernier morceau du disque. Et on l'a surtout revu dans son rôle magnifique d'un des meilleurs films de Carpenter du monde, à savoir New York 1986-17, Le Duke, bien entendu. Hein, ça, on s'en rappelle, il n'y a pas de problème. Hein. On le voit également dans d'autres films. Je ne vais pas noter toute la filmographie parce que bon, les films sont un petit peu moins intéressants. Il est également dans Possy, La Revanche de Jesse Lee, le film de Mario Van Peebles. Dans Sacré Robin des Bois de Mel Brooks.
Oh, non.
Si.
Ah mais c'est l'aveugle.
Et dans Flipper de le film de Hogan en 1996. Et dans le Reindeer Game, alias Piège Fatal de Frankenheimer.
Xavier m'avait loué le Flipper en magasin.
Mais bon. Ok, sinon on l'a également vu dans pas mal de séries, hein, c'est vrai quoi, parce que bon, il a une bonne bouille, et puis on a remarqué que c'était un acteur qui tenait un petit peu la route quand même. Ça concerne la seconde partie de sa carrière, on va dire à partir du début des années 80. Hein, à partir du début des années 80, il laisse un petit peu tomber la musique, pas tout à fait, mais il se consacre plus à ses apparitions en tant qu'acteur. En 85, dans The A-Team, à savoir Agence du risque, dans la saison 4, l'épisode 6, où il interprète le rôle de C.G. Mac. Dans un épisode de la saison 2, le dernier épisode de la saison 2 d'ailleurs, de Rick Hunter, où il joue le rôle de Jerome Typhoon Thompson. Dans un épisode de la saison 4, l'épisode 5 de la saison 4 de Miami Vice, bien entendu. Alors ça coulait de source quand même.
Ah oui, ça c'est obligé.
Obligé, James Brown y est allé deux fois ou trois fois même. On a vu Phil Collins, enfin bon, on a vu à l'appel, donc pourquoi pas lui, hein, vraiment. Il est aussi apparu dans Les Contes de la Crypte en 94, également en 94 dans Le Prince de Bel-Air. Bon, bah, ça, ça va
couler
un petit peu plus de sources.
Il avait plus... des impôts à payer, tout simplement.
Ouais, un peu plus incongru, c'est Veronica's Closet, une série un petit peu connue quand même, qui a été traduit par Les Dessous de Veronica, hein, dont l'interprète principale, Kirstie Alley, essaie de refaire parler d'elle dans une autre série qui a pas du tout marché, d'ailleurs, il apparaît dans un épisode où ils jouent son propre rôle, donc le rôle de Isaac Hayes. On le voit également dans le pilote de Fastlane en 2002, où il joue le rôle du détective Marcus, également un personnage relativement récurrent, car on le voit apparaître dans Stargate, tout d'abord dans 3 épisodes de la saison 8 où il interprète toujours le même rôle, celui de Tolok. Et Tolok revient dans la saison 10 dans un seul épisode, l'épisode 6. Donc alors sa filmographie, on en a parlé jusqu'à l'instant. Donc ça c'est Truck Turner qu'on entend, donc c'est sa troisième musique de film en fait, après Tough Guys. Et après, bien entendu, Shaft, qu'il avait fait en 71.
Pour lequel il a eu un Oscar, rappelons-le.
Bah ouais, et des Grammys, enfin bon, à l'appel, quoi. Enfin bon, ça, il n'y a pas de problème. De ce côté-là, ça a plutôt bien marché pour lui. Pas tant que ça, quoi, d'ailleurs. Hein. Ça, je vous le raconterai un petit peu dans l'historique musical, dans la deuxième partie, à partir de 14h. De la télé à présent, de la vraie, de la pure, de la dure, avec quelques séries quand même intéressantes à revoir. Alors pour ceux qui ne connaissent Dominique Purcell,
Prison Break entre autres,
que dans Prison Break ou en guest star dans un épisode de Doctor House, sachez que la série qu'il a révélée quand même, c'est John Doe.
Oui, tout à fait. Ouais.
Alors John Doe, eh bien, Série Club vous propose une séance de rattrapage à partir de mercredi prochain, 2 épisodes, dont le pilote. Donc sur Série Club, on respecte l'ordre des épisodes, donc ça roule à peu près. Sauf qu'il faut savoir que John Doe est une série qui a été annulée en fin de première saison et que il y a plusieurs lectures dans les épisodes de John Doe. Le premier, ça concerne le mystère concernant justement John Doe interprété par Dominique Purcell. Hein, qui a des dons assez extraordinaires. Hein, c'est un ordinateur vivant et tout. Le problème, c'est qu'il voit en noir et blanc et il sait pas d'où il vient, quoi. Et c'est pour ça que on a souvent associé Kyle XY, une série un petit peu plus récente, à John Doe, parce que il y avait la scène d'ouverture est pile poil la même, de toute façon. Hein, la première scène d'ouverture de John Doe, c'est comme dans Kyle XY, hein, où tu le vois à poil, tout nu dans la forêt, couché en fœtus. C'est la même, quoi, de toute façon, quoi. Après, il y a une espèce de, on va dire, d'histoire de complot un petit peu mystérieux. Pourquoi est-il là? Pourquoi sait-il tant de choses? Pourquoi que peut-il calculer la vitesse d'un ordinateur? Qui est délayé tout au long de la saison. Mais par contre, les épisodes se suffisent à eux-mêmes. car chaque épisode est plus ou moins la résolution d'une enquête, car il sert justement, eh bien, il aide un petit peu des enquêteurs à résoudre des enquêtes criminelles un petit peu plus classiques. D'accord. Donc,
ce qui n'a aucun rapport avec appelez-moi John Dave, appelez-moi pardon Dave, le nouveau Eddie Murphy sur les écrans.
Absolument aucun.
Heureusement.
Absolument aucun. Sinon, il faut savoir également que Lost saison 4, les deux derniers épisodes, c'est ce soir sur TF1 à partir de 23h10. Hein, donc ça y est, ils ont été recueillis, ils ont fait leur conférence de presse. Vous êtes les rescapés, oh dingue. Et on sait enfin où ils ont atterri, enfin bon, où est l'île mystérieuse et tout. On sait où elle se situe sur la carte, on est vachement contents.
Hein. Dans ouais, le triangle des Bermudes.
Pas du tout.
Pas du tout, pas du tout.
Dans ton cul.
Je tiens à vous signaler également.
J'ai pas suivi. C'est très bon.
Ouais. En parlant de Lost, que ben Nestor Carbonell a également un petit rôle dans Lost. Hein, je sais pas si vous vous souvenez, quoi. Mais bon, on le voit également apparaître dans Lost. Sinon, je voulais vous parler des deux séries les plus intéressantes du moment. À savoir, tout d'abord, Bionic Woman. Alors, chaque fois que j'ai voulu vous en parler, bon, je dropais, ou alors, j'étais pas là, hein. Donc, il faut aussi savoir que vu la programmation de TF1, c'est-à-dire le dimanche à partir de 15h, le dimanche, donc, on le voit une fois sur deux parce que quand il y a Grand Prix, tu vois pas Bionic Woman, ils te le sucrent carrément. Donc,
c'est ballot.
C'est un peu ballot. Et pourtant, cette série qui a été beaucoup décriée, qui a d'ailleurs été annulée à la fin de la première saison parce que ça n'avait pas plu au public américain, je peux le comprendre un tout petit peu. Pourquoi ? Parce que, contrairement à la première mouture de Bionic Woman, hein, qui est devenue la série culte qu'on sait et qui a d'ailleurs coûté sa carrière à l'interprète, cette seconde mouture est nettement plus intéressante, je pense, parce que nettement plus sombre, avec une histoire qui se délaie, avec des personnages qui sont un peu plus forts. Hein, on va dire, avec toujours la participation en plus de Miguel Ferrer, hein, dans un excellent rôle, hein, Miguel Ferrer, le patron de la morgue dans Preuve à l'appui, le fils de Mel Ferrer, mais oui, bien sûr.
Cherchez s'il y avait un jeu de mots au cas où.
Non,
parce que
non, il n'y a pas de jeu de mots.
Pareil.
Non, il n'y a pas de jeu de mots. Donc, jetez-y un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Hein, c'est vraiment très très bien.
Ah, ils sont loin les violons de la première saison.
Vraiment, c'est super quoi. Il y a pas de problème. Hein, c'est encore une de ces séries qui peuvent nous faire dire que les Ricains comprennent rien à rien. C'est des idiots de toute façon.
Ah oui, parce qu'à côté, la reprise de K2000, Knight Rider, elle marche. Alors que la voiture est moche, moche.
Laisse tomber. Sinon, ma série préférée du moment, c'est quand même Les Allueuses sur W9, tous les samedis soirs.
Ah, le bad
de... Alors, l'horaire donné est 22h15, hein, donc c'est après, sur W9, le samedi soir, c'est Simpson Prime Time, donc avec plein d'épisodes des Simpsons.
Regroupés par thème, au hasard.
Regroupés par thème, donc...
Tous les épisodes ayant, pendant la première minute, une erreur de colorisation sur la chemise de Homer.
C'est pas grave, on s'en fout, on les a pratiquement tous vus, donc, c'est pas des nouveautés. Par contre, donc, il donne 22h15 pour Les Allumeuses. Tapez plutôt du côté de 22h30, voire 22h45, parce que c'est pas du tout précis. Mais par contre, Les Allumeuses, hein, c'est carrément du pur bonheur, hein, avec de la grosse déconne, des grosses vannes, du premier degré.
Au départ, l'idée c'était d'obtenir la licence pour Drôle de Dame en Allemagne.
Ouais, mais
ils n'ont pas eu à temps, donc ils ont lancé la production de la série, et après les producteurs l'ont eu, donc il n'y a eu qu'une saison, la deuxième saison, donc c'est une espèce de Drôle de Dame sous licence officielle.
C'est
une autre série dont je te parle.
Ça n'a rien à voir, hein, parce que là il s'agit de l'histoire de quatre nanas qui sont dans un lycée. Vu les actrices, elles ont pas l'âge d'aller au lycée, mais ça on s'en fout, quoi, de toute façon, hein, qui sont plus ou moins mignonnes et appétissantes, avec toutes, un sujet principal en tête, à savoir le cul, et comment on va se dépatouiller, et tout, des problèmes de notre âge, à savoir des lycéennes proches du bac. Alors il y en a une qui saute sur tout ce qui bouge, l'autre qui a encore plus elle, et puis mais elle est très riche et tout, donc elle n'a plus ou moins rien à foutre. La troisième qui expérimente un petit peu tout et n'importe quoi, et qui est un petit peu, celle à qui toutes les conneries arrivent, hein, c'est-à-dire elle fait pas exprès, mais elle se prend tous les trucs dans la gueule. Et la dernière qui est bien sensée et tout, c'est l'intello de la bande et tout, mais qui se trouve également dans des situations un petit peu ubuesque de temps en temps, hein. C'est celle-ci qui se retrouve avec un mec et tout, qui lui fait écraser des insectes pendant qu'ils font l'amour, enfin, tu sais, des cafards, des trucs comme ça. C'est un petit peu spécial quand même. Alors, 4 épisodes vous sont proposés ce soir. Ce sont des épisodes format sitcom, à savoir 25-30 minutes, hein, donc 4. Ça vous fait même pas 2 heures de visionnage, c'est vraiment très bien. De toute façon, c'est bien rythmé. Il n'y a pas de problème. Alors le petit truc assez rigolo, c'est que ça se passe dans le lycée qui a un nom qui est très connu en Allemagne, hein, Franz Josef Strauss, qui était ni plus ni moins que le patron de la CDU dans le temps, quoi, c'est-à-dire le
Parti social-démocrate.
Le parti de droite en Allemagne. Et Franz Josef Strauss était connu pour être un gros con presque à la limite du fascisme en Allemagne, hein. C'était vraiment l'emblème de ce qu'il fallait pas être au niveau de la droite, on le surnommait d'ailleurs le taureau de Bavière, quoi. ça c'est véridique, hein, de toute façon, quoi. Et donc le lycée porte ce nom, hein. Alors dans les deux premiers épisodes sont des épisodes qui ont été diffusés le samedi précédent, donc déjà vu. Dans le premier, sous les feux des projecteurs, Laura se réveille le matin avec à ses côtés non pas un mec mais une nana. Alors est-elle devenue lesbienne? Bah, elle va chercher à savoir si elle est lesbienne ou pas. Le deuxième, les joies de la maternité. Alors là c'est complètement délirant, hein, parce que bon, ça tourne autour au départ d'un casting que fait un chanteur pop qui est complètement nul à chier, quoi, mais bon, qui fait un casting pour avoir des danseuses derrière lui, hein, pour faire des chorégraphies, hein. Mais à côté de ça, il y a une autre nana qui se dit que peut-être que son mec n'a pas mis sa capote et elle n'a pas pris sa pilule et tout, mais est-elle enceinte et tout, que va-t-il se passer et tout. Dans les deux autres qui sont inédits, donc l'eau dans le gaz et Une semaine pour convaincre, ce sont les deux derniers épisodes de la saison 2, donc je vous incite fortement à regarder cette série pour une bonne déconne le samedi soir. Ça le fait vraiment, ouais, très très bien, il n'y a pas de problème.
Ça changera du top 50 des meilleurs sourires, ouais, avec un bout d'épinard dans les dents.
Alors il faut savoir que certains épisodes, pas tous, sont moins 10 parce que bon, les allusions sexuelles sont vraiment assez évidentes. Hein. Hein, on voit même de gros Godemichet, des Jack Rabbit en gros plan, donc il n'y a pas de problème, ça le fait quand même, hein. C'est pas mal. h 20, donc
Je sais pas.
Tranquille. Allez, une série de films à la télé et par genre en plus, hein, tu vois, quoi. Alors là, j'ai trois genres, j'ai polar, western et science-fiction.
Attention.
Que qu'est-ce que tu veux?
Polar,
c'est la liste la plus nombreuse, avec demain soir sur TF1, US Marshall, le Stuart Baird avec Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr. et Joe Pantoliano. Rien que pour le troisième, ça vaut le coup de le regarder. Sinon, bon, c'est la suite sans le fugitif, mais du fugitif. Donc, l'intérêt est relativement relatif, on va dire. Surtout que c'est filmé un petit peu avec les pieds par Stuart Baird, hein, qui n'est pas un orfèvre en la matière. Donc, si, peut-être avec ses pieds, quoi. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on tient les caméras, généralement.
Maléfique.
Sinon, il y a également Miami Vice, demain sur Canal+, à 23h. Là, ok, c'est Michael Mann, donc lui, il filme pas avec les pieds. Et il y a Colin Farrell, donc ça le fait quand même. Et demain, sur Canal Jimmy, à 20h45, un vieux polar franco-italien d'Étienne Perrier de 72. Un meurtre est un meurtre avec Stéphane Audran, Jean-Claude Brialy et Catherine Spack. Et qui est relativement bien, quoi, quand même, franchement. Et sinon, si vous voulez aller dans le très très classique, hein, mais enfin bon, les plus jeunes ils savent pas ce que c'est le très très classique, donc c'est une occasion pour eux de découvrir le couple Bogart-Bacall sur TCM demain soir à 20h45 avec... Alors ils l'ont pas mis dans l'ordre, c'est un peu con, parce que bon, c'est dans le port de l'angoisse que Bogart découvre Bacall et se maque avec elle. Hein, rappelez-vous la fameuse scène et tout, si tu veux m'appeler, t'as juste besoin de siffler, tu sais comment on fait pour siffler... Tu mets les deux lèvres ensemble et tu souffles. Hein. Bon, je vous le dis pas en anglais parce que bon, sinon vous allez rien comprendre. Ouais, ça c'est la réplique culte, hein, de toute façon, quoi, du port de l'angoisse, donc de Howard Hawks en 44, qui passe après le Howard Hawks de 46, qui est le plus connu de toute façon, vu que c'est le Grand Sommeil, The Big Sleep, hein, tiré de du roman de Chandler avec Bogart qui interprète Philippe Marlowe, bien sûr, dont le scénario est également de Chandler, mais qui a été modifié par rapport au bouquin, vu qu'à la fin, Eddie Mars, il crève pas de la même manière, donc, Ok. Et le troisième, bah, c'est avec pas Bacall, hein, mais avec Bogart quand même. Et il est vraiment bien, quoi. C'est le film de Michael Curtis en 44, Passage to Marseille. Tout ça sur TCM, donc demain soir à partir de 20h45, entrecoupé de petits docus de 10 minutes, un quart d'heure sur la vie et l'œuvre de Bogart et de Bacall. Donc à voir absolument de toute façon sur TCM. Et à 21h également demain sur Cinépolar.
En version
Cinépolar.
Multilingue, c'est ça qui est intéressant.
Ouais, c'est en multilingue de toute façon. Et à voir également sur Cinépolar. Alors ça, c'est un polar qui est vraiment
garde, c'est
pas connu.
Que j'ai.
Pas connu du tout. D'Irving Pichel de 50, s'appelle Sable Mouvant. Irving Pichel est le co-réalisateur avec, j'ai pas noté le nom de l'autre, des Chasses du Comte Zaroff, donc un gros classique, oui. Hein. Et il a fait ce petit polar qui n'est jamais sorti en France, hein, qui est inédit en France, mais qui est sorti en DVD, je vous rassure, je te prêterai si tu veux, avec Mickey Rooney dans le rôle principal, Jan Cagney, Peter Lorre et Barbara Bates.
S'il vous plaît.
Alors tourné en décor naturel. Ça raconte l'histoire de Mickey Rooney qui est un petit apprenti garagiste et tout, et qui pour pouvoir sortir le samedi soir, il va taper $20 dans la caisse du garagiste et tout, et puis il aurait vraiment pas dû le faire. Voilà, mais c'est vraiment très très bien, hein, c'est un petit polar pas connu du tout, hein, je vous dis, mais ça vaut vraiment le coup. Lundi à 20h45 toujours ce Cinépolar, le traquenard de Richard Fleischer en 49 avec Lloyd Bridges, le papa de tous les Bridges. Et Barbara Payton, mardi sur Canal Plus à 21h, Hollywoodland d'Alan Coulter avec Adrien Brody, Ben Affleck qui est pas bon dans les rôles principaux mais dans les rôles secondaires il est très bon, vu que là pour ce rôle il a obtenu le Lion d'or de la,
non,
le
pack, c'est pas mal ça,
le grand prix
de Venise,
à la Mostra de Venise, ouais pour le ce Lion rôle d'or. Il y a également Diane Lane et Beau Hoskins. Il raconte l'histoire d'un enquêteur qui dans les années 60 va enquêter sur la mort de l'acteur qui interprétait Superman dans la série Superman à la télé dans les années 50, George Reeves.
Oui, le père.
Il y a également jeudi sur Cinéma Culte, celui-là est très connu mais il est vraiment très bien. C'est L'ami américain de Wim Wenders avec Dennis Hopper, Bruno Gantz, Lisa Kreutzer et Gérard Blin, l'immense Gérard Blin. Et vendredi sur Canal+, mise à prix, un bon petit Joe Carnahan de 2006, hein, je vous en avais fait la chronique. Bah, il y a 2 ans, hein, de toute façon, c'était mon polar de l'été.
Ah, il était fabuleux.
Avec Ray Liotta, Ryan Reynolds, Jeremy Piven, qui est excellent. Mais alors là, très très bon dans ce film. Là, vraiment, là,
le Jeremy petit très... sourire en coin, c'est, là, c'est
très, la, très c'est étonnant du... comme film de ouais. La part de Carnahan, parce que c'est vrai qu'on s'attend à du polar très noir de sa part. Moi, je l'avais pris pour, j'étais allé avec mes beaux-parents en me disant, tiens, mais c'est bah oui, ils aiment beaucoup les polars. Je me suis dit, tiens, Carlahan avec Narc et le précédent,
ouais,
ça devait le faire. J'avais pas calculé que c'était un snatch-like où je me suis régalé.
Ah, ouais,
mais le beau-père, il a un petit peu tiré la gueule.
Ne serait-ce que la bande de néo-nazis.
Ah, j'ai adoré. Tiré de.
Et il y a également Ben Affleck dans un second rôle. D'ailleurs, il se fait dégommer par les néo-nazis, mais bon, qui est bon dans.
Tout à fait.
On redonne peut-être les références alors.
Mise à prix.
C'est mise à prix donc. C'est sur Canal+ vendredi prochain à partir de 22h35.
Ah,
mais donc c'est multidiffusé. Il y a d'autres horaires donc pour ce film. Mais c'est vraiment très très bien. Il n'y a pas de problème. Faut le voir. C'est un petit peu tarantinesque. C'est ce que je reproche à Carnahan pour ce film. C'est le seul reproche que j'ai à lui faire d'ailleurs. C'est qu'il a voulu faire du Tarantino un petit peu quoi. Mais ça le fait quand même. Hein, vraiment quoi. Sans problème.
Moi j'aurais plutôt dit Guy Ritchie avec ses arnaques botaniques. C'est
ouais. Mais Guy Ritchie il a tout pompé sur Tarantino. Donc...
Tout à fait. Mais bon, voilà. Il fallait trouver le lien.
Voilà. Des westerns, bon, il y en a pas des masses quand même, mais il y a du bon avec ce soir à 20h45 sur RTL9, Joe Kidd, le John Sturges de 72 avec Clint Eastwood et Robert Duvall, John Saxon et Don Stroud. Lui, il est dans tous les bons westerns, Don Stroud. Donc, quand vous voyez un western, un vieux western, Don Stroud, vous pouvez vous dire c'est bon, je peux regarder, c'est bon. Puis là, il y a John Saxon qui, une fois n'est pas coutume, joue le rôle d'un Mexicain, quoi. Alors bon, John Saxon Mexicain, ça vaut le coup, hein. L'histoire de riches Américains qui convoitent les terres des pauvres Mexicains et tout. Ah, les boules. Joe Kidd, donc c'est ce soir sur RTL9. Sinon, lundi à 20h45, ce W9, là, une curiosité parce que c'est un western allemand. Il s'appelle Qui peut sauver le Far West 2 et avec Michael Herbig, hein, qui est un petit peu à l'instar de Mel Brooks, un mec qui aime bien détourner les gens. Et donc là, bah ok, hein, c'est un truc allemand, hein, y a que des acteurs allemands, Christian Tremitz, Marie Beimer, et donc ça peut voir son pesant de cacahuète. Le film est assez récent, il date de 2001, donc c'est sur W9 lundi à 20h45. Mardi à 20h45 sur Ciné Cinéma Classique, on a Feu sans sommation de Ciné Salkov de 64 avec Audie Murphy. Audie Murphy, c'est un énorme acteur dans les années 40, 50 et 60 qui a s'est spécialisé dans les rôles de cowboy. Ah ouais, lui c'est le cowboy de toute façon. Il y a également Mary Anders et James Best dans ce film qui est diffusé donc mardi prochain sur Ciné Cinéma Classique à 20h45. Alvarez Kelly, le Dmitrik de 66 avec William Holden et Richard Widmark, c'est ce jeudi prochain 23h35 sur Cinéma Classique. Je vous gardais le meilleur pour la fin. Je vous avais dit il y a 15 jours que à propos de Billy the Kid et Billy the Kid contre Dracula de William Bodine, qu'il avait également tourné Jesse James contre Frankenstein. Eh bien, c'est la même année qu'il a tourné les deux films, vu que Cinéfix vous le propose jeudi prochain à 21h. Jesse James contre Frankenstein avec James Lupton et Narda Onyx, entre autres.
Grandiose.
Ça vaut 100 pesants de cacahuètes, vraiment.
Ah,
c'est
de popcorn
rigolo.
Au ketchup.
Parce que ça mélange les deux genres, en fait. Il faut savoir que il y a d'un côté Frankenstein et tout qui, il s'est fait virer parce que le mythe de Frankenstein qui avait été détourné et qui se retrouve du côté de la côte est des États-Unis. Comme il fout le bordel un petit peu, les gens le foutent dehors. Et qu'est-ce qu'il fait? Il traverse les États-Unis, il va de l'autre côté. Donc du côté de la Californie pour s'installer dans un manoir et continuer ses expériences, mais il se fait emmerder parce que justement Jesse James se fait poursuivre, tu sais, la fameuse poursuite et tout, se fait poursuivre par ceux qui veulent sa peau et tout, et puis on va mélanger un petit peu les deux trucs parce que il va essayer de se réfugier dans le manoir et fallait pas, ça donne un petit peu n'importe quoi.
Ça a l'air très bon, je trouve.
C'est rigolo quoi, de toute façon. C'est à voir au second degré de toute façon. C'est la semaine prochaine sur Cinéfix, jeudi prochain à 21h. Jesse James contre Frankenstein.
Et en science-fiction.
Et alors en science-fiction, de toute façon, ce soir, à ne pas louper parce qu'il y a David Bradley dedans, 22h25 sur TNT1, c'est Total Réalité de Philippe Giraud. Le mec nous avait fait les films avec les requins, là, je sais pas si tu te rappelles, toute la série des films avec les requins, assez récent. Lui, il est spécialisé dans le film de genre, mais série C ou série D, ce que tu veux. Là, il y a David Bradley et Thomas Kretschmann. Là, ça dépote un petit peu quand même. Sinon, ce soir, celui que j'adore et celui que je vous passe à chaque fois, le chat qui vient de l'espace de Norman Tokar, avec Ken Berry, Sandy Duncan, Harry Morgan et Roddy McDowall. C'est sur Disney Cinemagic ce soir à 21h45.
Tu peux me prêter le chat qui vient de l'espace? Je te prête le retour des Tomatueuses.
Mais je l'ai pas en DVD.
Non.
Il passe sur Disney Cinemagic, je veux dire, il passe en boucle.
T'inquiète, tu pourras le regarder avec les enfants du sport.
Super.
Un film dont, si vous voyez juste le générique, à la limite ça peut suffire. Quoique, il y a Temuera Morrison de donc ça peut valoir le coup. Il y a également Steve Railsback et Jake Nosworthy. Mais pour le générique avec Pamela Anderson dans Barb Wire, allez-y et tout, ça vaut le coup. C'est sur RTL9 demain à 22h45. Et il y a également sur CNFX demain à 21h un film récurrent dans ma programmation, c'est Mutant aquatique en liberté, le film de Steve Cunningham.
Mal,
ouais, tout à fait, de 89 avec Marius Weyers, Nancy Everhart et Torian Black. Lundi, un bon film de science-fiction à 20h45 sur RTL9, The Arrival de David Towie. Avec Charlie Sheen, Lindsay Crowe, Terry Polo et Ron Silver.
De 2001, non?
Non, 96.
96.
Parce que 2001, c'est justement Daito Eve. Non, un peu plus tard, il a fait Pitch Black.
Ouais.
Justement, le.
Mais il me semblait qu'il y avait
The Arrival 2.
The Arrival 2.
Avec
c'est pour
plus
ça,
du tout David Towie et plus du tout avec Charlie Sheen. Et puis, ils ont voulu en faire un deuxième. Ça n'a pas du tout marché. Mais si vous préférez les bons film de pas franchement de science-fiction, je sais pas ce que pourquoi je l'ai foutu là-dedans, mais bon.
C'était genre Contact, ça, si je me souviens.
Non, mais je sais pas quoi, mais bon, j'aurais dû foutre dans le truc polar, mais bon, c'est pas grave. À 22h50 demain soir sur RTL9, juste après The Arrival, Hitcher, l'original de Robert Harmon avec Rutger Hauer, excellent. Chris Thomas Howell, excellent. Jennifer Jason Leigh, excellente.
L'original,
ah oui, Rutger Hauer, bien sûr. Non, attends,
Qui est aussi dans le remake, Rutger Hauer. Attention. Il y a eu un remake il y a un an, deux ans, maximum.
Oui. Il y a eu le remake, quoi, mais je parle pas du remake. Ça m'intéresse pas.
Nous reparlons de l'original.
Quand même, qui a eu le prix du festival, le grand prix du festival du film policier, le policier de Cognac. Sinon, lundi à 22h40 sur NT1, Shadow Chaser 4 de Mark Rober avec l'énorme Frank Zagarino et Todd Jensen et Jennifer McDonald. Lundi également sur Ciné Cinéma Premier à 23h, Code 46. Une des rares incursions de Michael Winterbottom dans le genre science-fictionnesque, avec Tim Robbins, avec Samantha Morton, excellente. Et Taga Igawa, mardi sur CineFX, Invasion Martienne de Tom Greff en 59 avec David Love et Dawn Bender, où les Martiens ils arrivent, mais ils sont tous très méchants, méchants, sauf un. Et c'est ce qui va sauver la Terre d'ailleurs. À 20h40 également mardi sur Action Moon 44, bah l'un des premiers Roland Emmerich.
Ouais,
avec Michael Paré, avec Lisa Ishorn et Malcolm McDowell, ainsi que Dean Devlin, qui par la suite il a vu que acteur ça rapportait pas assez, donc il s'est dit bon, je vais faire producteur, ça rapporte plus. Et donc avec Emmerich,
surtout pour faire ce genre de film.
Ouais ouais, après avec Emmerich, après bah ils ont produit plein de trucs, ils ont produit il a produit Stargate, le film, il a produit la série Dean Devlin, hein, et puis bon, maintenant, bah, il est très riche, tu vois, voilà, c'est ça, c'est mieux, producteur, y a pas de problème. Et puis, au moins, on voit pas ta gueule, quoi, comme ça, hein, tu peux sortir dans la rue tranquille, quoi. Voilà. Et ce sera tout pour la programmation de cette semaine.
Grand Dieu, c'est déjà fini?
Bah oui.
Mon Dieu. Thomas, peux-tu s'il te plaît rappeler pour nous donner le résumé de l'émission pour ceux qui ont pris le supplément week-end en cours de route? Ah non, bon.
Nous avons eu un Joker avec des facéties et des magiciens. Nous avons eu un du sport qui nous a encore raconté plein d'acteurs dont on n'a jamais entendu parler.
Et JB, t'es gentil. Et en plus, si tu manques toutes les chroniques BD puisque t'es arrivé en
tout
plein
en fait.
Milieu. Et si vous avez manqué tout ça, heureusement, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, des émissions précédentes, les chroniques écrites, fouiller dans vos archives, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.tk, sans accent ni tiré, vous le tapez dans la barre d'adresse, ou sinon vous allez sur Google et vous demandez supplément weekend MP3 ou supplément weekend FMR et vous tombez de suite. La suite du programme sur FMR avec votre cahier sportif. À 14h, un gros hommage à Isaac Hayes. À 15h, c'est du reggae. Et à 17h, eh ben, c'est Booster FM qui prend la suite sur 89.1. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye. See you. You're